En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour messieurs. Bonjour chers amis. Monsieur le garde des Sceaux, madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, mesdames, messieurs les professeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Les sciences morales et politiques, dont le nom apparaît parfois obscur à nos contemporains, désignent un projet à la fois politique et scientifique. Il s'agit de comprendre au mieux l'homme dans l'ensemble de ses dimensions psychologiques, historiques, spirituelles, économiques, sociales et autres, pour en déduire un ordre politique qui soit fondé sur la raison. À ce titre, le droit et son étude sont l'une de nos missions évidentes et premières, car il est le vecteur, le droit, par excellence, de la rationalisation des rapports humains et sociaux. Ce droit français s'est exprimé avec éclat il y a un peu plus de 200 ans dans ce monument de clarté qu'est le Code civil. Mais tout monument, aussi robuste soit-il, doit être entretenu et protégé des ravages du temps. La question de la rénovation du Code civil est un véritable serpent de mer depuis plus d'un siècle. Des projets furent conçus et débattus, des avancées furent faites, notamment sous l'impulsion de notre confrère Jean Foyer, qui décida avec Jean Carbonnier et François Théré de procéder titre par titre du Code pour tenter de venir à bout de la tâche colossale. Concernant le droit de la responsabilité civile qui nous occupe aujourd'hui, le projet de mise à jour du Code civil que vous allez nous présenter dans un instant ne fait pas partie de ces projets de réforme qui jaillissent tout d'un coup, sans que l'on s'y attende, et dont on ne sait pas très bien à quelle nécessité il répond. Tout au contraire, cela fait plus d'une dizaine d'années au moins que chacun s'accorde sur la nécessité qu'il y a de repenser ce droit en tenant compte de la riche jurisprudence et des évolutions du temps. Cette nécessité répond tout à la fois à un souci de cohérence interne de nos textes juridiques et de sécurité juridique, mais aussi au défi que nous lance la mondialisation. Dans un monde concurrentiel, un droit qui ne répondrait pas aux exigences de clarté, de pertinence et d'adaptation au réel serait voué à la marginalisation, et avec lui, la nation qui le porte. Sous l'impulsion de notre confrère, M. François Théré, l'Académie a participé activement à cette réflexion. Tout au long de ses années de travail, le soutien de la chancellerie n'a jamais failli, pas plus que la collaboration utile et précieuse de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, pas plus d'ailleurs que celle des éditions Dalloz, qui a publié les trois rapport issu de ces réflexions sur la réforme du droit des contrats en 2009, de la responsabilité civile en 2011 et du régime général des obligations en 2013. Au sein du droit des obligations, la responsabilité civile, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui organisent la réparation des dommages injustement causés à autrui, présente une physionomie singulière. Elle occupe une place marginale dans le Code civil, 5 articles seulement dans la version originelle de 1804. Cela traduit assurément la faible importance de la matière dans la France encore essentiellement rurale de l'époque. En 2 siècles, cependant, les choses ont bien changé. De multiples facteurs, notamment sociaux et économiques, ont entraîné un développement spectaculaire de la responsabilité civile. Son importance et son étendue sont devenues considérables. Elle est le siège d'enjeux économiques, sociaux et politiques importants. Le paradoxe est toutefois que cette branche du droit a été jusqu'à ce jour largement délaissée par le législateur, dont les interventions ont le plus souvent consisté à créer des régimes spéciaux de responsabilité destinés à organiser la réparation de dommages liés à certaines activités très particulières. Mais depuis 1804, il n'avait jamais été touché aux principes généraux de la matière. Comme les dispositions du Code civil sont peu développées et ont de surcroît un caractère assez général, ce sont essentiellement les juges qui, depuis deux siècles, par un travail remarquable, ont fait évoluer la responsabilité civile et lui ont donné la physionomie qui est la sienne aujourd'hui. Ces brefs rappels permettent de mesurer l'importance de votre projet, Monsieur le Ministre, pour lequel nous formulons l'espoir qu'il puisse aboutir sous la prochaine législature. Monsieur le garde des Sceaux, je vous donne la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs. En matière de droit civil, le calendrier ministériel de l'année 2016 a été singulier. J'ai été nommé fin janvier, juste au moment de la promulgation de l'ordonnance qui a réformé le droit des contrats le 10 février. Autant dire que je n'ai en aucune façon contribué à sa réflexion, à son élaboration de ce qui est l'un des trois piliers de l'ordre juridique et qui a ainsi, avec cette ordonnance, renoué avec sa tradition civiliste d'accessibilité aisée, de prévisibilité garantie et d'attractivité naturelle. J'ai ensuite été contraint de mettre en œuvre une réforme portant sur les professions réglementées, voulue par l'un de mes collègues, et ai trouvé des dites professions réglementées dans un état d'hostilité absolue à l'égard de cette réforme, alors que ce n'était pas du tout l'intention ni du Premier ministre de l'époque, ni du législateur. Et enfin, je prépare une réforme qui sera de facto, vous l'avez dit, Monsieur le Président, portée par mon éventuel successeur. Je ne sais pas si le destin est joueur, mais de fait, il m'a évité, préservé l'ivresse de l'autosatisfaction ministérielle dans ces domaines. C'est donc avec la conscience du rythme d'écoulement du temps que je viens vous entretenir d'une réforme qui sera probablement en effet historique. Ainsi que je vous l'avais indiqué, ou que je l'avais indiqué à certains d'entre vous, les recevant à la chancellerie le 29 avril dernier, l'ordonnance de février ne marquait nullement la fin du chantier de modernisation du droit des obligations. Comme vous le savez, le droit de la responsabilité civile a volontairement été exclu du champ de l'habilitation. Il était évident que le Parlement souhaitait se prononcer, s'approprier pleinement sur un sujet qui, compte tenu de sa sensibilité particulière et des enjeux propres à la matière, se prêtait mal à une habilitation d'ordonnance. Mais ne nous y trompons pas. Bien que dissociés dans le temps, la réforme du droit des contrats et la réforme du droit de la responsabilité ne sont évidemment pas dissociables sur le fond. La deuxième est d'autant plus nécessaire qu'elle viendra parachever la première. Et cela donnera en effet naissance à un véritable régime de responsabilité contractuelle. L'ambition est donc de bâtir un projet qui fixe des règles communes aux responsabilités contractuelles et extra-contractuelles et qui organise l'articulation entre les deux régimes. La tâche est donc considérable. En effet, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le droit de la responsabilité civile repose sur 5 articles sur les 2281 articles originels du Code civil, sauf que ces 5 articles sont demeurés pratiquement inchangés depuis 1804. Cette concision est à l'image de la faible importance accordée de fait à l'époque à ce mécanisme juridique qui trouvait peu d'occasions d'être mis en œuvre. Mais depuis, comme a pu l'écrire le doyen Carbonnier, cette partie du Code civil s'est hypertrophiée. Les dommages se sont multipliés. La vie urbaine nous jette les uns sur les autres. Les machines explosent. L'inflation des lois fait foisonner les manquements à la loi. Et en face, les victimes sont devenues plus exigeantes. Le constat est lucide. Et pourtant, quand le doyen Carbonnier écrit ses lignes, nous sommes en 1996, c'est-à-dire à une époque où les véhicules autonomes et autres robots relevaient encore pour l'essentiel de la science-fiction et la révolution numérique était une chimère. Ces cinq articles, ont néanmoins résisté au temps, grâce à l'impressionnante œuvre de construction jurisprudentielle de la Cour de cassation qui a, fidèle à sa tradition, su adapter les textes à l'évolution des mœurs, de la société et de la langue française. Reste que celui qui procède à la seule lecture des articles 1382 à 1386 du Code civil n'aura qu'une vision parcellaire, pour ne pas dire erronée, du droit français de la responsabilité. Il faut en effet avoir une connaissance de la riche et subtile jurisprudence de la Cour de cassation pour en appréhender la technicité. La réforme de la responsabilité civile est donc d'une nécessité impérieuse pour pouvoir compter sur un droit lisible, transparent et porteur d'une sécurité juridique utile aux citoyens comme aux acteurs économiques. Et puis surtout, pour adapter nos règles de la responsabilité aux enjeux économiques et sociaux du XXIe siècle. Dans ce but, le législateur de 2017, à quel moment conclura-t-il, mais en tout cas en 2017, devra aller plus loin que la simple codification de la jurisprudence. Mais il devra garder le souci constant du juste équilibre entre l'efficacité attendue par les acteurs économiques et la protection que sont en droit d'attendre les victimes. La tâche est immense, je l'ai dit, mais heureusement, la chancellerie a choisi de ne pas l'affronter seule et de s'appuyer sur des remarquables travaux, évidemment ceux du professeur Terret, menés sous l'égide de votre académie, mais aussi sur les remarquables travaux de la professeure Geneviève Vinet et du regretté Pierre Catala. S'appuyer encore sur les rapports de juin 2009 des deux sénateurs Alain Anziani et Laurent Béteille, ou encore du travail conduit par le député Guy Lefranc en septembre 2010. De surcroît, j'ai souhaité que le projet élaboré par mes services soit soumis à une large consultation publique. Cette dernière s'est ouverte le 29 avril 2016 et a pris fin le 31 juillet de la même année. L'importance des contributions reçues témoigne à la fois du vif intérêt que suscite cette réforme attendue de longue date, puisque nous n'avons pas enregistré moins de 1000 pages de contributions, mais aussi constat rassurant du consensus qu'il est possible de dégager sur bien des points. Consensus renforcé d'ailleurs par les échanges qui sont intervenus depuis entre la Direction des affaires civiles et du Sceau et les principaux contributeurs. Nous avons donc choisi de prendre en compte bien des points de vue. Celui de nos concitoyens, évidemment, car le droit de la responsabilité civile concerne chacun d'entre nous. Celle des professionnels du droit qui auront à appliquer ces textes. Celle des associations de victimes, mais aussi des impératifs économiques rappelés par les représentants des milieux économiques. C'est ainsi grâce à tous, magistrats, universitaires, professions du droit, acteurs de la vie économique, que le projet de la chancellerie a pu être notablement amélioré. Et je veux vous en remercier chaleureusement, tout comme je veux associer à ces remerciements la directrice des affaires civiles et du Sceau, Carole Champalonne, qui a su, avec finesse et érudition, conduire ses équipes sur ces premières étapes d'un chantier aussi important. En l'état, le projet reste néanmoins profondément fidèle à cette constitution civile, chère à Jean Carbonnier, qui, à la suite de ce prince de l'exégèse qui était Charles de Molombes, avait ainsi résumé le Code civil. Carbonnier écrivait « En lui sont récapitulées les idées autour desquelles la société française s'est constituée au sortir de la Révolution et continue de se constituer de nos jours encore, développant ses idées, les transformant peut-être, sans jamais dire les renier. » Ces idées fondatrices sont encore le cœur de la réforme que j'ai l'honneur de vous présenter. Je pense notamment à l'objectif d'égalité de traitement des victimes. Évidemment, nous n'avons pas eu la prétention, qui aurait d'ailleurs été très dangereuse, de régler toutes les hypothèses de mise en jeu de la responsabilité civile. Notre ambition est de moderniser, de clarifier le droit positif et de l'enrichir de 2 siècles de jurisprudence et de la doctrine. Ainsi, nous aurons élaboré un droit adapté aux problématiques de notre société qui pourra à son tour, espérons-le, traverser le temps. Chacun sait en effet que la solidité de cette fameuse Constitution civile a grandement aidé la société française à traverser une histoire mouvementée, longtemps caractérisée par l'instabilité des constitutions politiques. De même, ce projet poursuit un objectif de lisibilité du droit. Cela suppose tout d'abord de retenir un plan structuré et un langage simplifié, sans pour autant oser se rattacher au mot de Stendhal qui affirmait en 1840 « Composant la chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil. » Le plan retenu est simple, didactique, car largement inspiré des travaux universitaires et en particulier ceux du groupe de travail du professeur Catala. Il s'articule autour de six chapitres. Dispositions préliminaires, conditions de la responsabilité, causes d'exonération ou d'exclusion de la responsabilité, état de la responsabilité, convention sur la responsabilité et enfin, principaux régimes spéciaux de responsabilité. S'agissant de la structure du projet, la consécration dans une section dédiée d'un ensemble de règles communes aux responsabilités contractuelles et extra-contractuelles mettra fin à de nombreuses controverses doctrinales. Cela limitera aussi les risques de contentieux. En effet, la détermination du préjudice réparable et du lien de causalité exigé sont des facteurs communs à ces deux régimes de responsabilité. Ces derniers doivent donc recevoir les mêmes définitions et être soumis aux mêmes conditions. Une telle conception n'interdit évidemment pas de consacrer les exceptions, justifiées par la spécificité du fait générateur en matière contractuelle. Je pense par exemple à la force majeure ou à la limitation du dommage réparable à celui qui était raisonnablement prévisible au jour de la conclusion du contrat. Au-delà de cette clarification conceptuelle, le projet consolide les grands principes du droit de la responsabilité civile énoncés par les rares textes actuels, ainsi que de multiples apports jurisprudentiels. Dans la tradition du Code civil de 1804, un principe général est maintenu, celui selon lequel on est responsable du dommage causé par sa faute. Avant de devenir un principe juridique cardinal, ce précepte philosophique est consubstantiel à la condition de l'homme moderne, dont la responsabilité est le corollaire de la liberté. Ainsi, le principe de la responsabilité pour faute traduit une exigence morale plus que jamais d'actualité. Conformément à une autre tradition juridique française bien établie, un autre principe est affirmé, celui de la réparation intégrale du dommage. En l'espèce, le projet sanctuarise des principes dégagés par la jurisprudence. C'est notamment le cas du principe de libre affectation des dommages et intérêts et de l'évaluation du montant des dommages et intérêts par poste de préjudice. Cela permet une juste indemnisation de la victime tout en respectant sa liberté dans l'usage qu'elle en fait. Dans le prolongement des articles 1384 à 1386 et s'inspirant de la jurisprudence, nous proposons aussi de clarifier les différents régimes de responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses. La jurisprudence, aussi élaborée soit-elle, suscite en effet parfois des interprétations divergentes. Or, en ce domaine, la prévisibilité du droit est d'autant plus importante que tout système de responsabilité civile est aujourd'hui indissociable du mécanisme de l'assurance. C'est pourquoi le projet précise les multiples apports jurisprudentiels en matière de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, et consacre l'essentiel de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait d'autrui. Là où ce régime de responsabilité n'était jusqu'à présent régi que par l'article 1384 du Code civil, chaque hypothèse de responsabilité de plein droit est désormais l'objet d'un article spécifique. Article spécifique donc sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, responsabilité du commettant du fait de son préposé et responsabilité du fait de celui dont le mode de vie est organisé et contrôlé à titre permanent. Sur quelques points néanmoins, il est proposé de remettre en question certaines évolutions jurisprudentielles. Tout d'abord, une condition commune à tous les cas de responsabilité du fait d'autrui est introduite. Il y aurait ainsi une rupture avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Le projet consacre alors le principe selon lequel toute responsabilité du fait d'autrui suppose l'existence d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage. Surtout, le projet propose de prendre le contre-pied de la jurisprudence sur la délicate question de l'articulation des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Celle-ci donne lieu depuis plus de 30 ans à une jurisprudence complexe, source d'interprétations divergentes et donc d'insécurité juridique. Il a été choisi de faire relever la réparation du préjudice corporel de la responsabilité civile extra-contractuelle, même si le dommage a été causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Cela permet ainsi une égale et juste indemnisation entre toutes les victimes d'un tel préjudice. Suite à la consultation que j'évoquais tout à l'heure, nous avons toutefois ajouté que la victime pourrait invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l'application des règles de la responsabilité extra-contractuelle. Ainsi, la situation des victimes ne peut pas être plus défavorable que dans le droit positif actuel, sans néanmoins que son principal inconvénient, le forçage du contrat par la découverte d'obligations de sécurité, ne demeure. La protection renforcée des victimes de dommages corporels constitue l'une des autres innovations majeures du projet. Dans le droit fil des différents avant-projets de réforme du droit de la responsabilité civile, nous avons fait le choix de placer l'intégrité de la personne au sommet de la hiérarchie des intérêts protégés. Sont ainsi proposés un ensemble de règles destinées à améliorer et harmoniser l'indemnisation des victimes de dommages corporels. Cette détermination se traduit par l'introduction de quelques exceptions en faveur des victimes. Ainsi, seule la faute lourde de la victime d'un dommage corporel peut réduire son droit à l'indemnisation. De même, aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d'un dommage corporel. Enfin, les clauses qui excluraient ou limiteraient la réparation de ce type de dommage sont prohibées. Fidèle à notre souci constant d'amélioration de l'indemnisation des victimes, le projet propose en outre de consacrer un ensemble complet et cohérent de règles propres à la réparation du dommage corporel. Il est prévu que ces règles seront applicables aux décisions des juridictions judiciaires, mais aussi administratives, ainsi qu'aux transactions conclues entre la victime et le responsable. Qui peut en effet admettre aujourd'hui que la victime d'une erreur médicale soit indemnisée différemment selon qu'elle a reçu les soins dans un hôpital public ou dans le secteur privé. L'uniformisation des modalités de réparation du dommage corporel passe par la consécration de plusieurs instruments méthodologiques. Ceux-ci sont indispensables, non seulement pour les praticiens, mais aussi pour les victimes. L'adoption d'une nomenclature non limitative des postes de préjudice, à partir de la nomenclature dite d'Intillac, bien connue des acteurs, est ainsi prévue. De même qu'un barème médical d'invalidité unique est un barème de capitalisation des rentes. Enfin, il est surtout prévu de créer une base de données jurisprudentielles permettant de situer l'évaluation de chaque victime dans son contexte précis, ainsi qu'un référentiel d'indemnisation purement indicatif adossé à cette base de données et réévalué régulièrement. Dans le même esprit, le projet propose de résoudre la divergence de jurisprudence opposant le Conseil d'État et la Cour de cassation sur le recours des tiers payeurs. Il s'agit d'une source d'inégalité injustifiable entre les victimes. Sera ainsi supprimée la possibilité pour ces tiers payeurs de récupérer auprès du responsable les prestations versées à la victime au titre de ses préjudices personnels. En effet, ce recours diminue aujourd'hui d'autant les indemnités perçues par la victime. En matière d'accident de la circulation, le projet fait entrer dans le Code civil, où elles trouveront leur place naturelle, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, bien connue sous le nom d'un de mes illustres prédécesseurs. Mais notre ambition ne se limite pas à donner plus de visibilité à la loi dite Badinter. Le projet reprend en effet des améliorations suggérées par l'ensemble des travaux universitaires et parlementaires que j'ai cités. L'objectif étant de remédier aux iniquités qu'a pu engendrer la mise en œuvre de ces dispositions âgées de maintenant plus de 30 ans. Le champ d'application de la loi est ainsi étendu aux tramways et aux chemins de fer, comme l'avait proposé le député Guy Lefranc dans sa proposition adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 16 février 2010. Le sort des conducteurs victimes, juste là exclu de la protection offerte par la loi Badinter, est amélioré. Seule sa faute inexcusable lui sera dorénavant opposable, sans toutefois exiger qu'elle soit la cause exclusive de l'accident. La seconde innovation notable du projet est d'inscrire dans le marbre du Code la fonction préventive de la responsabilité civile jusqu'alors trop méconnue de notre droit positif. Fortement inspiré des travaux du professeur Terray, le projet consacre tout d'abord la cessation de l'illicite comme fonction autonome de la responsabilité civile en matière extra-contractuelle, en confiant au juge la possibilité de prescrire toute sanction ayant pour objet ou pour effet de prévenir le dommage ou de faire cesser un trouble illicite, il ne s'agit plus seulement de réparer le dommage, mais d'agir sur sa source. De même, l'introduction dans notre droit commun de l'amende civile vient conforter cette fonction préventive. L'idée consiste à ouvrir une voie intermédiaire entre la voie civile classique, celle qui est centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, qui, elle, est axée sur la sanction des comportements. Ce chemin intermédiaire est destiné à s'appliquer lorsque le responsable aura délibérément commis une faute lucrative, recherche d'un gain ou d'une économie, sans nécessairement avoir recherché le dommage. L'objectif, pour reprendre les mots d'un éminent auteur, est de prévenir la commission de fautes, des fautes qui, malgré l'octroi de dommages et intérêts à la victime à la hauteur de son préjudice, laissent à leur auteur une marge bénéficiaire suffisante pour qu'il n'y ait aucune raison de ne pas les commettre. Contrairement aux dommages et aux intérêts punitifs, le montant de l'amende ne sera pas versé à la victime de la faute, mais à l'État ou à des fonds d'indemnisation. Il n'y a donc nulle crainte de voir poindre devant nos tribunaux les dérives que l'on connaît outre-Atlantique. L'amende civile à la française sera respectueuse de notre tradition juridique attachée au principe de la réparation intégrale tout en remplissant les fonctions de moralisation des comportements qui lui est assignée. Je suis breton, et l'un des auteurs bretons que nous chérissons est Pierre Jacques-Elias. Pierre Jacques-Elias a un jour écrit « Quand un galet ne se trouve pas bien dans le mur ne se trouve pas bien debout. » J'avais déjà évoqué cette métaphore. Vos contributions ont été décisives, et elles ont permis de faire de ce projet de réforme un édifice constitué de galets qui sont subtilement équilibrés. Et elles lui ont donné une solidité suffisante, j'en suis convaincu, pour résister à la période électorale dans laquelle nous sommes et pour devenir, je n'en doute pas, un projet de loi qui sera déposé. Je suis convaincu que ce projet qui transcende les clivages, il trouvera naturellement très vite sa place naturelle aux articles 1240 et suivants du Code civil. Je vous remercie.
La parole est à François Terray, membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Vous m'entendez ? C'est là ?
Oui, c'est là. Très bien.
Excusez-moi, monsieur le ministre, monsieur le président, messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames, messieurs, mes chers collègues, presque tous, je suis heureux d'intervenir, mais je m'aperçois que le schéma que j'avais initialement retenu pour les quelques moments que vous me laissez et que je vais utiliser était conçu avec une trilogie que certains aiment bien. Il y avait hier, aujourd'hui et demain. Pour ce qui est d'aujourd'hui, tout ce qui a été dit, et tout ce excellemment, et tout ce qui va l'être, non moins excellemment, c'est préventif, ça. C'est même la responsabilité, regarder et regardant l'avenir, me dispense donc, dans le temps prévu pour notre rencontre, d'insister, si ce n'est pour joindre mes remerciements et véritablement ma gratitude à tous ceux qui, venant du ministère de la Justice, que j'ai quitté il y a 45 ans, mais avec lequel j'ai toujours introduit et entretenu de bonnes relations merveilleuses, ont été dans notre relation commune ici merveilleusement utiles et sympathiques. Par exemple, Madame Champalone, qui est là, qui va quitter, je crois, bientôt la chancellerie, mais qui ne quitte pas notre amitié. Mon cher directeur, sous-directeur des affaires civiles, Guillaume Meunier, et bien d'autres ici encore, ainsi que les membres des groupes de travail et la librairie et les éditions d'Allos qui ont permis la publication de nos travaux. Cela étant, je vais peut-être revenir un instant sur le passé qui a été évoqué et sur l'avenir demain. Sur le passé, beaucoup de choses ont été dites et je ne vais pas évidemment épiloguer. Beaucoup de choses ont été dites d'abord sur le vieillissement du Code civil. Ce vieillissement qui faisait du premier code de l'Europe le dernier à notre époque, malgré les travaux formidables de la jurisprudence, parfois soutenus par la doctrine, mais avec cette différence essentielle, c'est que les magistrats apprennent à faire des arrêts, mais que les universitaires n'apprennent pas à faire des lois, ce qui leur donne d'ailleurs beaucoup d'autorité pour critiquer les lois des autres, surtout quand ils n'ont pas été associés à leur création. Mais laissons cela, c'est dérisoire, et cela ne va pas retenir notre temps. La difficulté qu'il y a eu à légiférer, à refaire le Code civil, dépassé dès la fin du XIXe siècle par le BGB allemand, et puis par d'autres règles juridiques, d'autres codes, même un code autrichien dont on a découvert par l'attitude et les études de certains l'importance certaine, nous ont amené à constater que le Code civil français, le droit civil français, surtout parfois mélangé de préoccupations de publicistes, a conduit à être le dernier de l'Europe. Il a été rattrapé par la Roumanie, qui a bien réagi quand même et qui a en quelque sorte rénové le Code civil dans sa conception quand même classique et traditionnelle, mais aussi le Code du Québec, qui est probablement dans la lignée du Code civil civiliste, oui, et commercialiste aussi, parce qu'un commercialiste est un civiliste aussi, quand il ne s'ignore pas, de ce point de vue-là, une importance certaine. Et au fond, on se dit pourquoi ça n'a pas été possible en France. Eh bien, c'est parce qu'à partir des années 1960, on s'est aperçu que les grands travaux de réforme ne pouvaient plus passer aussi facilement devant le Parlement. Et il y avait une solution qui a été utilisée il y a 50 ans. J'ai des souvenirs, vous parliez de Jean Fouillet, le ministre, c'est de faire travailler les assemblées parlementaires de nuit. Le code, la réforme du droit des sociétés, j'ai des souvenirs nocturnes. Il y avait 5 parlementaires, il y avait 7 commissaires du gouvernement et surtout les huissiers des assemblées parlementaires étaient payés de mieux en mieux à mesure que la nuit avançait. Évidemment, ce sont des données qu'il faut apprendre aux autres aussi quand ils veulent faire des lois et cesser toujours de juger les affaires des autres. Ce n'est pas facile. Non, vraiment, ce n'est pas facile de légiférer. Quoi qu'il en soit, ces solutions nocturnes ne pouvaient plus suffire. Et finalement, le remède qui a été utilisé au sujet de la première vague des travaux législatifs inhérents au Code civil a consisté à user d'une des procédures parlementaires ou extra-parlementaires pour un peu, et qui permettait de rénover le droit des contrats. Si cette procédure n'avait pas été utilisée, je dis et je répète que nous en serions aujourd'hui au même point, n'en déplaise aux adorateurs du passé. La suite a été évoquée et vous étiez là merveilleusement parmi nous, comme l'ont été, justement, suivant une bonne méthode, la collaboration, la présence de bout en bout de magistrats de la chancellerie. Cette innovation était beaucoup plus importante que certaines des méthodes préconisées. Elle a permis justement de faire voter, de soumettre au Parlement un texte. Et il y a évidemment, mais c'est utile parce que cela démontre des discussions intéressantes, certains adorateurs du passé qui sont encore mal placés pour digérer le merveilleux texte sur le contrat. Et qui, pour l'instant aussi, demain, pourraient être en mesure, justement, de comprendre la réforme de la responsabilité. Vous avez évoqué cela, cela va l'être d'un autre moment. Et par conséquent, inutile de ressasser, surtout de manière bien médiocre, les utilités de ce texte. Mais ce que l'on peut dire, et c'est vrai aussi de celui sur les contrats, c'est que le monde des affaires, que le monde économique n'est pas toujours axé suffisamment sur les réformes du droit civil. J'ai souvenir d'une séance au Conseil d'État merveilleuse, absolument antédiluvienne, dans lesquelles certains auteurs, certains orateurs évoquaient toutes les difficultés d'interprétation d'un texte possible. Et l'on a vu naître 5 ou 6 théories reprises même par des universitaires, tandis que Carbonnier, à côté de moi, me disait « Ne vous excitez pas, restez tranquille, vous verrez, il n'y aura jamais un seul arrêt qui puisse permettre de partager ces 5 théories. » Et tout cela parce qu'il y a du droit commercial, il y a du droit des affaires, et que celui-ci, maintenant, ne permet plus véritablement de distinguer le cultivateur et le banquier. Et c'est alors pour le demain, qu'allons-nous faire ? Vous nous indiquez que demain, le vrai demain, permettra aussi de prendre en connaissance les propositions que vous avez aménagé pour être jusqu'au bout, au point de comprendre ce que peut être l'esprit d'une réforme à laquelle on constate que certains auteurs étrangers s'intéressent de manière moins professionnelle ou néo-professionnelle que des faux amateurs du droit. Eh bien, ceci étant, c'est demain. Voyons, monsieur le garde des Sceaux, c'est demain maintenant aussi et qui est en cause. Hier, c'était le vieux droit. Aujourd'hui, c'est le droit actuel avec toutes les prévisions qu'il comporte. Mais demain, c'est aussi, s'il vous plaît, le droit des contrats spéciaux. Car le droit des contrats spéciaux est tout autant vermoulu que le droit commun des contrats que les mélanges, les adjonctions du passé, le contrat de travail qui est toujours abordé à travers le louage de service, les contrats du droit aérien et qui sont toujours un peu abordés du côté du droit maritime, parce que comme on ne savait pas comment était l'air, mais qu'on savait parce que les lois anciennes de la Grèce savaient comment on naviguait, eh bien, on pouvait alors comprendre ce que peut être une réorganisation de deux manières. D'ailleurs, il y a des corps de loi qui sont tels qu'il faut se contenter d'y renvoyer, mais qu'il y a au contraire des contrats nouveaux qu'il faudrait repenser. Non seulement les contrats nommés ou innommés, mais aussi les grands axes qui permettraient de satisfaire les besoins de la pratique. Et il s'ordonne maintenant autour de trois considérations: la chose, le service et l'intellect. Je dirais même l'incorporel. Mais l'incorporel, on peut le voir de deux manières, du côté du médecin ou du côté de l'écrivain, ce qui n'est pas forcément pareil. Et lorsque demain, nous aurons à nous interroger à nouveau, peut-être, sur cette formule curieuse que l'on trouve dans un code qui n'est même pas le code civil et suivant lequel nul ne peut se plaindre du seul préjudice résultant de sa naissance. On se dit qu'il y a peut-être du chemin à faire encore. D'abord parce que le seul préjudice conduit à s'interroger sur les autres préjudices possibles dans les possibilités même de notre jour et puis de notre époque, et puis aussi sur le point de savoir si cela regarde un auteur d'un code spécial de dire aux gens qu'ils n'ont subi jamais aucun préjudice du seul fait d'être nés. Mais ceci n'est que pour demain, mais aujourd'hui je tiens à m'excuser d'avoir été trop long, pas trop quand même, ça va, et de vous remercier d'une présence qui, de votre part, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, est précieuse pour l'activité et l'avenir de notre Académie.
La parole est à Monsieur Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas, membre du groupe de travail académique qui a été dirigé par Monsieur François Théré. Je vous en prie.
Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Directrice des Affaires Civiles et du Sceau, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, l'allocution de M. le garde des Sceaux me dispense d'avoir à vous rappeler l'évolution de notre droit de la responsabilité depuis maintenant deux siècles et la part considérable qui a pris la jurisprudence. Je voudrais simplement souligner que cette part prise par la jurisprudence a donné à notre droit de la responsabilité une physionomie toute particulière, qui consiste notamment en cela que notre droit est composé, pour une bonne part, de règles très générales qui laissent une grande marge d'appréciation, même une grande marge de manœuvre au juge. Et on peut comprendre que le juge, développant des règles, se soit, si j'ose dire, ménagé des espaces. C'est aussi un droit qui est globalement très favorable aux victimes. Alors non pas tant d'abord en raison des indemnités qui sont effectivement allouées aux victimes, car les quelques comparaisons dont nous disposons, qui ne sont d'ailleurs pas très développées, mais les quelques comparaisons dont nous disposons suggèrent que l'indemnisation en France n'est pas forcément plus importante, au contraire, que dans d'autres pays dont les conditions socio-économiques sont comparables aux nôtres. Mais c'est un droit qui se montre très généreux, à la fois dans la définition des conditions de la responsabilité, qui sont en général comprises de manière très favorable aux victimes, de manière très souple, et aussi dans les dommages qui sont réparés. Notre droit, au contraire de la plupart des droits étrangers, ne pose en effet aucune limite au type de dommages, de préjudices qui peuvent être réparés. Alors il y a bien sûr les atteintes à la personne, les atteintes au corps qui sont les plus importantes, les atteintes aux biens, mais il y a aussi la souffrance morale, cela paraît normal, mais aussi les atteintes aux sentiments, aux convictions, les espérances déçues, et j'en passe. Tout ou presque chez nous est susceptible de faire l'objet d'une réparation. Alors cet état de fait suscite, vous vous en doutez, des réactions contrastées chez les spécialistes. Certains s'en réjouissent au nom de la protection des victimes de dommages et parce qu'ils pensent que cette souplesse des règles, si elle crée bien évidemment de l'incertitude, est une arme puissante entre les mains du juge qui peuvent ainsi adapter le droit à la multiplicité des situations et qui peuvent, autant que faire se peut, s'adapter aux besoins des victimes. D'autres sont plus circonspects, estimant que l'incertitude des règles a un coût important pour notre société et que la marge de manœuvre laissée au juge n'est pas forcément si bénéfique que cela aux victimes, tout simplement parce que pour profiter de cette marge de manœuvre, il faut aller devant le juge, et cela requiert des ressources en temps, en argent, des ressources psychiques aussi, et que les victimes des dommages les plus graves ne sont pas toujours les mieux placées pour intenter des procès. Et finalement, ce sont parfois les puissants, les assureurs, les grandes entreprises qui sont le mieux placés pour bénéficier de l'action de la jurisprudence. Et puis, il y a aussi l'inquiétude qu'à tout indemniser, on finisse par mal indemniser ou moins bien indemniser, ce qui est le plus important, et d'abord les atteintes à la personne. Alors, ces deux approches de la responsabilité se reflètent, au moins en partie, dans les deux grands projets doctrinaux qui ont été élaborés après que l'on a célébré, en 2004, le bicentenaire du Code civil, cet anniversaire ayant conduit à relancer le projet de réforme du Code civil, ou plus exactement du droit des obligations. Et nous le savons tous, deux projets ont été élaborés, le premier sous la direction du regretté professeur Catala, vous l'avez évoqué, monsieur le garde des Sceaux, et le deuxième sous l'égide de cette académie, sous la direction du professeur François Terré. Alors le premier projet, donc le projet du professeur Pierre Catala, dans lequel le professeur Geneviève Vinet a joué un rôle majeur, adopte clairement, j'espère ne pas trahir son esprit, le parti de la continuité et même, dans une certaine mesure, du renforcement de ce que l'on pourrait nommer l'idiosyncrasie française. Je veux dire par là qu'il confirme et accentue, me semble-t-il, les caractéristiques du droit actuel. Il reprend bien sûr pour l'essentiel les acquis du droit positif, et notamment de la jurisprudence, mais il propose en outre la création de nouveaux cas de responsabilité, parfois très larges, et... par sa facture très souple, par le type de rédaction des règles qu'il a adoptées, il se situe dans la continuité, là encore, du droit positif, se refusant à définir trop précisément les notions clés de la matière. Le second projet, celui de cette académie, traduit quant à lui une approche, et auquel j'ai eu l'honneur de participer, traduit quant à lui une approche un peu plus critique à l'égard du droit positif. Alors, ce projet confirme lui aussi l'essentiel de l'acquis jurisprudentiel, et donc il y a un fort aspect de continuité dans ce projet, comme dans le projet du professeur Catala. Mais dans sa facture, dans son esprit, il se démarque incontestablement tant du droit positif que du projet du professeur Pierre Catala. Il accorde en effet une grande importance à la conceptualisation du droit de la responsabilité, cherchant à en clarifier la présentation et à en préciser les concepts, afin de le rendre plus lisible, plus prévisible, et aussi, il faut le dire, plus attractif dans le contexte actuel de concurrence entre les systèmes juridiques, et je dirais de concurrence entre les modèles lorsque des pays cherchent à réformer leur législation. Ce projet de l'Académie manifeste aussi le souci peut-être de mieux encadrer certains cas de responsabilité, il instaure aussi explicitement une hiérarchie des intérêts, toujours au nom de cette idée que certains intérêts, notamment l'intégrité corporelle, sont plus importants que d'autres. Alors la question, lorsque la chancellerie s'est engagée à son tour dans le travail de réforme du droit de la responsabilité, était évidemment de savoir quelle partie la chancellerie allait adopter. Une manière de faire, à vrai dire, et peut-être c'était botté en touche, mais une manière de faire eût été de confier à une commission ad hoc le soin de rédiger un projet, qui aurait été en quelque sorte le projet officiel de la chancellerie. Ce n'est pas trop notre manière de faire, mais cela se fait couramment dans d'autres pays. Et donc on aurait pu envisager qu'une commission réunissant des représentants de toutes les parties prenantes et avec un cahier des charges très précis, soit chargé d'élaborer un projet qui serait devenu, peu ou prou, le projet du gouvernement. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, Et la chancellerie a préféré travailler elle-même à ce projet de réforme au sein du bureau du droit des obligations, composé de magistrats dont je tiens à saluer le travail. Alors, dès lors que la chancellerie prenait elle-même en main ce travail, elle était confrontée, me semble-t-il, j'imagine la situation qui a été celle des magistrats du bureau du droit des obligations, à une alternative. Fallait-il reprendre en substance l'un des deux projets doctrinaux, ce qui aurait eu l'avantage évidemment de préserver la cohérence doctrinale du projet choisi, mais aurait eu d'autres inconvénients, et notamment celui de susciter l'ire de l'autre partie de la doctrine, bien évidemment, parce que, il faut bien le dire, et c'est peut-être un hommage rendu en creux à la doctrine, la chancellerie n'est manifestement pas insensible aux critiques qui peuvent émaner de la doctrine. La doctrine n'a pas toujours le sentiment d'être écoutée comme elle aimerait l'être, parce qu'elle est un peu orgueilleuse, mais le fait est que le jugement de la doctrine garde, pour le meilleur et pour le pire, un certain poids. Et donc, la première branche de l'alternative eût été pour la chancellerie de choisir, entre guillemets, en bloc, l'un des projets existants. L'autre partie était évidemment de tenter une synthèse des deux projets existants, ce que la chancellerie avait déjà fait de manière très heureuse pour le projet, enfin pour la réforme du droit des contrats. Mais les oppositions de style, d'esprit entre les deux projets doctrinaux en ce qui concerne le droit des contrats étaient, me semble-t-il, moins prononcées qu'en ce qui concerne la responsabilité. Et donc, le travail de synthèse s'annonçait plus difficile pour le droit de la responsabilité. C'est pourtant le parti qu'a choisi la chancellerie. Et l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile, qui a été dévoilé par M. le garde des Sceaux en avril dernier, cherche manifestement à réaliser une forme de synthèse des deux projets doctrinaux en en tirant ce que la chancellerie a cru y trouver de meilleur. Alors, l'influence du projet du professeur Catala est, à vrai dire, me semble-t-il, prépondérante, parce que c'est ce projet qui a donné à l'avant-projet de la chancellerie d'abord sa structure, et par ailleurs, la chancellerie a fait le choix, à la suite du projet du professeur Catala, de conserver, je dirais, la facture traditionnelle des règles du droit français de la responsabilité, donc des règles assez souples qui laissent au juge une grande marge de manœuvre. Voilà. Cela étant dit, l'influence du projet de cette académie est également certaine et se fait sentir sur un certain nombre de points. Elle se fait d'abord sentir sur certains points qui tiennent à la manière de présenter, à la conceptualisation du droit de la responsabilité. La chancellerie a, par exemple, été sensible à la manière d'analyser la responsabilité du fait d'autrui. Elle se traduit également, cette influence du projet de l'académie, dans l'importance donnée à la fonction préventive de la responsabilité qui a été évoquée, et aussi dans la manière de soustraire le dommage corporel à la dichotomie traditionnelle entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle pour soumettre systématiquement le dommage corporel aux seules règles de la responsabilité extra-contractuelle, manière, vous l'avez dit, monsieur le garde des Sceaux, d'éviter des différences de traitement injustifiées entre les victimes. Donc cet avant-projet présenté en avril est une œuvre de synthèse. Il existe maintenant manifestement une nouvelle version de l'avant-projet que nous ne connaissons pas, enfin en tout cas que je ne connais pas, mais qui est forcément un peu plus encore une œuvre de synthèse, puisque cette version corrigée a été enrichie des nombreuses contributions qui ont été soumises et qui, provenant d'horizons très différents, ont forcément accru encore ce caractère d'œuvre de synthèse du projet. Alors, soyons honnêtes, ceux qui, comme moi, ont eu la chance et le plaisir de participer à la rédaction d'un des projets de réforme doctrinaux peuvent, face à une telle œuvre de synthèse, éprouver un léger pincement de regret. Alors d'abord, le pincement de l'orgueil, que nos idées n'aient pas été intégralement suivies, et puis le pincement peut-être plus esthétique, parce que l'art pour l'art est aussi une tentation des juristes, le pincement plus esthétique lié au fait qu'une œuvre de synthèse, c'est forcément une œuvre qui n'a pas, sans doute, tout à fait la même cohérence conceptuelle et intellectuelle que celle que les auteurs des projets doctrinaux avaient tâché de donner à leur travail. Mais je crois qu'il ne faut pas, et c'est même une évidence, s'arrêter à ce pincement. Pourquoi ? D'abord, et c'est bien évidemment la raison principale, parce que l'avant-projet qui a été publié en avril dernier est, je pense, un très bon texte, et je ne doute pas qu'il a encore été amélioré grâce aux contributions nombreuses qui ont été envoyées à la chancellerie. Et par ailleurs, l'exemple très réussi, je crois, de la réforme du droit des contrats nous montre à quel point notre administration, j'ai envie de dire, est capable de produire un travail remarquable. Et donc, il y a tout lieu d'être confiant dans la réforme qui aura finalement lieu, si elle a lieu, comme nous l'espérons tous. Et puis une autre raison, et je finirai par là, une autre raison de ne pas regretter que cette œuvre soit une œuvre de synthèse et ne corresponde peut-être pas en tout point aux espérances de la doctrine, c'est que, justement, la chancellerie n'est pas la doctrine. Alors, excusez-moi de prononcer une évidence, mais c'est quelque chose dont, pour ma part, je me suis mieux rendu compte, je dois dire, lorsque, après avoir travaillé au projet de cette académie, j'ai eu la chance d'échanger à de nombreuses reprises avec les magistrats de la chancellerie. Un projet doctrinal n'est pas la même chose qu'un projet de la chancellerie. Et je ne parle pas là de la qualité des textes, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire que l'un serait forcément de meilleure facture ou de meilleure qualité que l'autre. Ce n'est pas du tout cela. Mais simplement, les contraintes qui pèsent sur la doctrine lorsqu'elle élabore un texte ne sont pas les mêmes que celles qui pèsent sur la chancellerie. En disant cela, je ne suis pas en train de suggérer que la doctrine serait insensible aux considérations pratiques. C'est souvent un reproche qui nous est fait. Je ne crois pas qu'il soit justifié. Et je pense que, aussi bien les membres du projet Catala que les membres du projet Terré ont eu à cœur de prendre en compte les besoins de la pratique, grâce notamment à la présence en leur sein, et c'était particulièrement le cas du projet de l'Académie, de représentants du monde professionnel, enfin autre qu'universitaire. Donc ce n'est pas ce souci de la pratique, mais c'est plutôt que la chancellerie est soumise aussi, enfin doit prendre en compte d'autres éléments, et notamment des considérations que je qualifierais, faute de mieux, de politiques. Alors il est bien de soi que je ne parle pas de politique politicienne, mais la chancellerie, lorsqu'elle élabore un texte, doit aussi prendre en compte les attentes, parfois même peut-être les exigences, enfin elles sont sans doute formulées comme telles, mais en tout cas les attentes des différentes parties prenantes. Alors, évidemment, les universitaires qui rédigent un texte pensent aussi aux victimes et aux justiciables potentiels, mais la chancellerie, elle, est en prise directe avec ses attentes et les attentes plus généralement des milieux professionnels, des associations de consommateurs, de victimes, les attentes des professions juridiques et judiciaires des juges. Et donc, j'ai envie de dire, les paramètres qui figurent dans l'équation sont plus nombreux que ceux qui figurent dans l'équation que la doctrine a à résoudre. Et donc, inévitablement, le résultat est différent. Et la chancellerie, sans perdre de vue les exigences de précision technique, de cohérence conceptuelle, qui sont premières et presque exclusives pour la doctrine, la chancellerie est obligée de prendre en compte d'autres éléments. Alors, pour nous, universitaires, c'est presque un peu sale, passez-moi le mot, mais c'est un peu comme ça que spontanément nous le vivons. Et pourtant, je crois que c'est ça la réalité du droit auquel le professeur Terré faisait allusion. Et donc, il faut que nous en ayons bien conscience et que nous acceptions que la doctrine peut éventuellement éclairer le gouvernement, mais elle n'est pas là. Enfin, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire à sa place. Et puis une autre différence est que même si les projets doctrinaux ont été rédigés avec le souci de leur mise en pratique, le fait est que lorsqu'on rédige un projet au sein d'un groupe de travail universitaire, eh bien, on a du mal à se projeter dans la pratique comme on le fait lorsqu'on est confronté à un texte de la chancellerie. Qu'on le veuille ou non, le travail doctrinal nous paraît toujours un peu, j'ai presque envie de dire, un peu théorique, au sens où nous savons bien que il ne se transformera pas directement en texte applicable. Il faudra qu'il passe par la chancellerie, le législateur. Et donc, nous faisons des propositions, mais d'autres disposent. Et donc, nous avons du mal à imaginer vraiment ce que signifierait l'application des règles que nous proposons. Alors que lorsqu'on est face à un texte de la chancellerie, eh bien, on raisonne, et je constate que nous raisonnons différemment. Parce que là, soudain, l'application pratique devient vraisemblable. Et soudain, on se pose des questions que l'on aurait pu se poser avant, mais qu'on ne s'était pas posées. Et je ne prendrai juste qu'un exemple, c'est la soumission du dommage corporel aux seules règles de la responsabilité extra-contractuelle. L'idée court depuis longtemps en doctrine, elle était déjà sous la plume du doyen Carbonnier, et elle a été reprise par le projet de cette académie, et je dois dire que nous l'avons adoptée, pensant que c'était une bonne idée, et finalement sans trop en discuter. Elle ne nous semblait pas poser de problème particulier. Et l'idée est effectivement sans doute très bonne, puisqu'elle a été reprise par la chancellerie. Sauf que, en lisant le projet de la chancellerie, soudain, nous nous sommes rendus compte, ou du moins je me suis rendu compte, mais je crois n'être pas le seul, de difficultés d'application que je n'avais pas envisagées lorsque pourtant j'avais contribué à poser cette règle au sein du projet de l'Académie. Parce que soudain, le texte paraissait plus concret, son application paraissait plus proche, et des difficultés que nous n'avions pas envisagées sont apparues. Et notamment la question, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais la question de tous les cas où un dommage est causé à l'occasion d'un contrat, mais que ce n'est pas le contractant lui-même qui a choisi d'exécuter le contrat, mais que ce contractant a confié l'exécution d'un contrat, non pas à un salarié, mais à un travailleur indépendant. C'est l'ubérisation, finalement, de l'économie. Bon. Et bien là, il y a là un problème technique qu'on peut d'ailleurs tout à fait résoudre, mais qui est quelque chose que nous n'avions pas vu lorsque nous avions proposé cette règle et qui nous apparaît lorsque nous retrouvons la même règle dans le projet de la chancellerie. Alors, cela veut dire sans doute que nous sommes moins exigeants envers nous-mêmes que nous ne le sommes envers la chancellerie. C'est un signe de complaisance envers nous-mêmes ou d'humilité, je vous laisse juger. Ce qui est certain, c'est que nous avons beaucoup d'attentes à l'égard de la nouvelle version de l'avant-projet de la chancellerie et que nous le lirons avec avidité. Mais ne doutons pas que ce sera un excellent texte et ce que nous espérons surtout, c'est que ce texte qui a déjà suscité tant d'efforts de la part de la chancellerie mais aussi de la doctrine, eh bien, sera prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je vous remercie.
Merci, monsieur le professeur, monsieur le garde des Sceaux, madame et messieurs les directeurs, messieurs et madame et messieurs les professeurs, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence nombreuse ce matin et je lève la séance.